Scène 9. Aux abords du château. Entre Ross et un vieillard. Le vieillard. J'ai la mémoire nette de 70 années. Dans l'espace de ce temps, j'ai vu des heures terribles et des choses étranges. Mais cette nuit sinistre rend puéril tout ce que j'ai vu. Ross. Ah, bon père, tu vois, les cieux troublés par l'acte de l'homme en menacent le sanglant théâtre. D'après l'horloge, il est jour, et pourtant une nuit noire étouffe le flambeau voyageur. Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour qui fait que les ténèbres ensevelissent la terre quand la lumière vivante devrait la baiser au front? Le vieillard. Cela est contre nature, comme l'action qui a été commise. Mardi dernier, un faucon, planant dans toute la fierté de son essor, a été saisi au vol et tué par un hibou chasseur de souris. Ross. Et, chose étrange et certaine, les chevaux de Duncan, si beaux, si agiles, ces mignons de leur race, sont redevenus sauvages, ont brisé leurs stalles et se sont échappés, résistant à toute obéissance comme s'ils allaient faire la guerre à l'homme. Le vieillard. On dit qu'ils se sont mangés. Ross. Oui, au grand étonnement de mes yeux, je l'ai vu. Voici le bon Macduff. Entre Macduff. Comment va le monde à présent, monsieur ? Macduff. Quoi, ne le voyez-vous pas ? Ross. Sait-on qui a commis cette action plus que sanglante ? Macduff. Ceux que Macbeth a tués. Ross. Hélas, à quel avantage pouvait-il prétendre ? Macduff. Ils ont été subornés. Malcolm et Donald Ben, les deux fils du roi, se sont dérobés et enfuis, ce qui jette sur eux les soupçons. Ross. Encore une chose contre nature. Ô ambition désordonnée, qui dévore ainsi la suprême ressource de ta propre existence, alors il est probable que la souveraineté va échoir à Macbeth. Macduff. Il est déjà proclamé et parti pour Scone, où il doit être couronné. Ross. Où est le corps de Duncan ? Macduff. Il a été transporté à Colmeskill, au sanctuaire où sont gardés les os de ses prédécesseurs. Ross. Allez-vous à Scone ? Macduff. Non, cousin, je vais à Fif. Ross. C'est bien, j'irai à Scone. Macduff. Soit, puissiez-vous y voir les choses se bien passer. Adieu. J'ai peur que nos manteaux neufs ne soient moins commodes que nos vieux. Ross au vieillard. Adieu, mon père. Le vieillard. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous et avec tous ceux qui veulent changer le mal en bien et les ennemis en amis. Ils sortent. Scène 10. Forrest, une salle dans le palais, entre Banquo. Banquo. Roi, Codor, Glamis, tu possèdes maintenant tout ce que t'avaient promis les femmes fatidiques, et j'ai peur que tu n'aies joué dans ce but un jeu bien sinistre. Cependant, elles ont dit que ta postérité n'hériterait pas de tout cela, et que moi, je serai la racine et le père d'une foule de rois. Si la vérité est sortie de leur bouche, ainsi que leurs prophéties sur toi, Macbeth, en sont la preuve éclatante, pourquoi, véridique à ton égard, ne pourrait-elle pas aussi bien être des oracles pour moi et autoriser mon espoir? Mais chut, taisons-nous. Fanfare, entre Macbeth en costume de roi, Lady Macbeth en costume de reine, Lennox, Ross, seigneur, dame et gens de la suite. Macbeth. Voici notre principal convive. Lady Macbeth. S'il avait été oublié, c'eût été dans cette grande fête un vide qui eût tout déparé. Macbeth. Nous donnons ce soir un souper solennel, seigneur, et j'y sollicite votre présence. Banquo. Que votre Altesse me commande, mon obéissance est pour toujours attachée à elle par des liens indissolubles. Macbeth. Montez-vous à cheval cet après-midi? Banquo. Oui, mon bon seigneur. Macbeth. Sans cela, nous vous aurions demandé vos avis, qui ont toujours été graves et heureux, en tenant conseil aujourd'hui. Mais nous les prendrons demain. Irez-vous loin? Banquo. Assez loin, mon seigneur, pour remplir le temps d'ici au souper. Si mon cheval ne marche pas très bien, il faudra que j'emprunte à la nuit une ou deux de ces heures sombres. Macbeth. Ne manquez pas à notre fête. Banquo. Monseigneur, je n'y manquerai pas. Macbeth. Nous apprenons que nos sanguinaires cousins sont réfugiés, l'un en Angleterre, l'autre en Irlande. Pour ne pas avouer leur cruel parricide, ils en imposent à ceux qui les écoutent par des inventions étranges. Mais nous en parlerons demain, ainsi que des affaires d'État qui réclament également notre réunion. Vite, à cheval, vous, et adieu jusqu'à votre retour ce soir. Fléance va-t-il avec vous? Banquo. Oui, mon bon seigneur, le temps nous presse. Macbeth. Je vous souhaite des chevaux vifs et sûrs, et je vous recommande à leur croupe. Bon voyage! Sort Banquo. Que chacun soit maître de son temps jusqu'à 7 heures du soir. Pour que la société n'en soit que mieux venue près de nous, nous resterons seuls jusqu'au souper. Jusque-là, que Dieu soit avec vous. Sortent Lady Macbeth, les seigneurs, les dames, etc. Macbeth à un serviteur. Drôle, un mot. Ces hommes attendent-ils nos ordres? Le serviteur. Ils sont là, monseigneur, à la porte du palais. Macbeth. Amène-les devant nous. Sort le serviteur. Être ceci n'est rien, il faut l'être sûrement. Nos craintes se fixent profondément sur Banquo. Dans sa royale nature règne tout ce qui est redoutable. Il est homme à oser beaucoup, et à la trempe intrépide de son âme, il joint une sagesse qui guide sa valeur à une action sûre. Il est le seul dont je redoute l'existence, et mon génie est dominé par le sien, comme, dit-on, Marc-Antoine l'était par César. Il a apostrophé les sœurs quand elles m'ont décerné le nom de roi, et il les a sommées de lui parler. Alors, d'une voix prophétique, elles l'ont salué père d'une lignée de rois. Elles m'ont placé sur la tête une couronne infructueuse et mis au poing un sceptre stérile que doit m'arracher une main étrangère, puisque nul fils ne doit me succéder. S'il en est ainsi, c'est pour les enfants de Banquo que j'ai souillé mon âme, pour eux que j'ai assassiné le gracieux Duncan, pour eux que j'ai versé le remords dans la coupe de mon repos, pour eux seuls. Mon éternel joyau, je l'ai donné à l'ennemi commun du genre humain pour les faire rois, pour faire rois les rejetons de Banquo. Ah, viens plutôt dans la lisse fatalité et jette-moi un défi à outrance. Qui est là? Rentre le serviteur suivi de 2 assassins. Maintenant, retourne à la porte et reste-y jusqu'à ce que nous appelions. Sort le serviteur. N'est-ce pas hier que nous nous sommes parlé? Premier assassin. C'était hier, s'il plaît à votre Altesse. Macbeth. Eh bien, maintenant, avez-vous réfléchi à mes paroles? sachez que c'est lui qui jusqu'ici vous a relégué dans une si humble fortune, tandis que vous en accusiez notre innocente personne. Je vous l'ai démontré dans notre dernier entretien. Je vous ai prouvé comment vous avez été dupé, contrecarré, quels étaient les instruments qui les employaient et mille autres choses qui feraient dire à une moitié d'âme, à un entendement fêlé. Voilà ce qu'a fait Banco. Premier assassin. Vous nous l'avez fait connaître. Macbeth. Oui, et j'en suis venu ainsi à ce qui est maintenant l'objet de notre seconde entrevue. Croyez-vous la patience à ce point dominante dans votre nature que vous puissiez laisser passer cela? Êtes-vous évangélique au point de prier pour ce brave homme et sa postérité, lui dont la lourde main vous a courbé vers la tombe et à jamais appauvri? Premier assassin. Nous sommes hommes, mon suzerain. Macbeth. Oui, vous passez pour homme dans le catalogue, de même que les limiers, les lévriers, les métis, les épagnols, les matins, les barbets, les caniches, les chiens-loups sont désignés tous sous le nom de chien. Mais un classement supérieur distingue le chien agile, le lent, le subtil, le chien de garde, le chien de chasse, chacun selon les qualités que la bienfaisante nature lui a départies et qui lui font donner un titre particulier dans la liste où tous sont communément inscrits. Il en est de même des hommes. Eh bien, si vous avez une place à part dans le classement, en dehors des rangs infimes de l'humanité, dites-le. Et alors je confierai à vos consciences un projet dont l'exécution fera disparaître votre ennemi et vous attachera notre cœur et notre affection, sa vie nous faisant à nous-mêmes une santé languissante que rétablirait sa mort. Deuxième assassin. Je suis un homme, mon suzerain, que les coups avilissants et les rebuffades du monde ont tellement exaspéré que je ferais n'importe quoi pour braver le monde. Premier assassin. Et moi, un homme tellement accablé de désastres, tellement surmené par la fortune, que je jouerais ma vie sur un hasard pour l'améliorer ou la perdre. Macbeth. Vous savez tous deux que Banco était votre ennemi. Deuxième assassin. C'est vrai, mon seigneur. Macbeth. Il est aussi le mien, et avec une si sanglante hostilité que chaque minute de son existence est un coup qui menace ma vie. Je pourrais le balayer de ma vue de vive force et mettre la chose sur le compte de ma volonté. Mais je ne dois pas le faire, par égard pour plusieurs de mes amis qui sont aussi les siens et dont je puis garder l'affection pour peu que je pleure la chute de celui que j'aurais moi-même renversé. Voilà pourquoi je réclame affectueusement votre assistance, voulant masquer l'affaire au regard de tous pour maintes raisons puissantes. Deuxième assassin. Nous exécuterons, mon seigneur, ce que vous nous commanderez. Premier assassin. Dussent nos vies. Macbeth. Votre ardeur rayonne en vous. Dans une heure au plus, je vous désignerai le lieu où vous vous posterez. Je vous ferai connaître le meilleur moment pour l'embuscade, l'instant suprême. Il faut que ce soit fait ce soir, à une certaine distance du palais, avec cette idée constante que j'ai besoin de rester pur. Et, pour qu'il n'y ait ni accroc ni pièce à l'ouvrage, Fléance, son fils qui l'accompagne et dont l'absence m'est aussi essentielle que celle du père, devra t'embrasser comme lui la destinée de cette heure sombre. Consultez ensemble vos résolutions. Je reviens à vous dans un instant. Deuxième assassin. Nous sommes résolus, mon seigneur. Macbeth. Je vous rejoins immédiatement. Restez dans le palais. L'affaire est conclue. Banco, si ton âme envolée doit trouver le ciel, elle le trouvera ce soir. Ils sortent. Scène 11. Une autre salle du palais. Entre Lady Macbeth et un serviteur. Lady Macbeth. Banco a-t-il quitté la cour ? Le serviteur. Oui, madame, mais il revient ce soir. Lady Macbeth. Va prévenir le roi que j'attends son bon plaisir pour lui dire quelques mots. Le serviteur. J'y vais, madame. Le serviteur sort. Lady Macbeth. On a dépensé tout pour ne rien avoir. Quand on a obtenu son désir sans satisfaction, mieux vaut être celui qu'on détruit que de vivre par sa destruction dans une joie pleine de doutes. Entre Macbeth. Qu'avez-vous, mon seigneur ? Pourquoi restez-vous seul, faisant vos compagnes des plus tristes rêveries et nourrissant des pensées qui auraient bien dû mourir avec ceux auxquels elles pensent ? Les choses sans remède ne valent plus la réflexion. Ce qui est fait est fait. Macbeth. Nous avons entamé, mais non tué, le serpent. Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même. Et notre haine misérable sera comme auparavant exposée à ses morsures. Mais puissions-nous voir craquer la machine des choses et s'abîmer les deux mondes, plutôt que de manger toujours dans la crainte et de dormir dans l'affliction de ces rêves terribles qui nous agitent chaque nuit. Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé reposer pour gagner notre repos que d'être soumis par la torture de l'esprit à une infatigable angoisse. Duncan est dans son tombeau. Après la fièvre convulsive de cette vie, il dort bien. La trahison a tout épuisé contre lui, l'acier, le poison, la perfidie domestique, l'invasion étrangère. Rien ne peut le toucher désormais. Lady Macbeth. Allons, mon doux seigneur, déridez ce front renfrogné. Soyez serein et enjoué ce soir au milieu de vos convives. Macbeth. Je le serai, mon amour, et vous soyez de même, je vous prie. Que vos attentions se concentrent sur Banco. Conférez-lui la prééminence par vos regards et par vos paroles. Tant d'inquiétudes où il nous faut laver nos honneurs au torrent des flatteries et faire de notre face le masque de notre cœur pour le déguiser. Lady Macbeth. Ne pensez plus à cela. Macbeth. Oh, pleine de scorpions est mon âme, chère femme. Tu sais que Banco et son fléan se vivent. Lady Macbeth. Mais l'image de l'humanité n'est pas éternelle en eux. Macbeth. Oui, il y a là une consolation. Ils sont attaquables. Sois donc joyeuse. Avant que la chauve-souris ait fait à tire-d'aile son tour de cloître, avant qu'à l'appel de la noire écate, l'escarbot aux ailes décaillées et de ses bourdonnements sourds sonnait le carillon somnolent du soir, il sera fait une action d'un formidable éclat. Lady Macbeth. Quelle action ? Macbeth. Ah, chère poule, sois innocente de la confidence jusqu'à ce que tu applaudisses à l'exécution. Viens, noir fauconnier de la nuit, bande les yeux sensibles du jour compatissant, et de ta main sanglante et invisible, arrache et mets en pièces le fil de cette grande existence qui me fait pâlir. La lumière s'obscurcit, et le corbeau vole vers son bois favori. Les bonnes créatures du jour commencent à s'assoupir et à dormir, tandis que les noirs agents de la nuit se dressent vers leur proie. Tu t'étonnes de mes paroles, mais sois tranquille. Les choses que le mal a commencées se consolident par le mal. Sur ce, viens avec moi, je t'en prie. Ils sortent. Scène 12. Une avenue conduisant à la porte d'entrée du palais. Entre trois assassins. Premier assassin. Mais qui t'a dit de te joindre à nous ? Troisième assassin. Macbeth. Deuxième assassin. Nous n'avons pas à nous méfier de lui, puisqu'il nous indique notre tâche et tout ce que nous avons à faire avec une précision parfaite. premier assassin. Reste donc avec nous. Le couchant est encore rayé de quelques lueurs du jour. C'est l'heure où le voyageur attardé presse les éperons pour gagner à temps l'auberge. Et voici qu'approche le personnage que nous guettons. Troisième assassin. Écoutez, j'entends les chevaux. Banco derrière le théâtre. Éclairez-nous là, hé ! Deuxième assassin. Alors c'est lui. Tous les autres invités qu'on attendait sont déjà au palais. Premier assassin. Ses chevaux s'en retournent. Troisième assassin. À près d'un mille d'ici. Mais il a l'habitude, comme tout le monde, d'aller d'ici à la porte du palais en se promenant. Entre Banco et Fléance, précédé d'un serviteur portant une torche. Deuxième assassin. Une lumière ! Une lumière ! Troisième assassin. C'est lui ! Premier assassin. Tenons ferme ! Banco. Il y aura de la pluie ce soir ! Premier assassin. Qu'elle tombe ! Il attaque Banco. Banco. Oh, trahison ! Fuis, bon Fléance ! Fuis, fuis, fuis ! Tu peux me venger, oh misérable ! Il meurt. Fléance et le serviteur s'échappent. Troisième assassin. Qui a éteint la lumière ? Premier assassin. N'était-ce pas le plus sûr ? Troisième assassin. Il n'y en a qu'un de tombé, le fils s'est échappé. Deuxième assassin. Nous avons manqué la plus belle moitié de notre affaire. Premier assassin. Allons toujours dire ce qu'il y a de fait. Ils sortent. Scène 13. La grande salle du palais. Un banquet est préparé. Entre Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox, des seigneurs, des gens de service. Macbeth. Vous connaissez vos rangs respectifs. Prenez vos places. Pour premier mot et pour dernier, cordial bienvenue à tous. Les seigneurs. Merci à votre majesté. Macbeth. Quant à nous, nous nous mêlerons à la société, comme l'hôte le plus humble. Notre hôtesse gardera sa place d'honneur, mais en temps opportun, nous irons lui demander la bienvenue. Lady Macbeth. Exprimez pour moi, sire, à tous nos amis ce que dit mon cœur. Ils sont les bienvenus. Le premier assassin paraît à la porte de la salle. Macbeth. Vois ! Ils te répondent par un remerciement du cœur. Les deux côtés sont au complet. Je vais m'asseoir ici au milieu. Faisons des largesses de gaieté. Tout à l'heure, nous boirons une rasade à la ronde. Tout bas, l'assassin. Il y a du sang sur ton visage. L'assassin. Tout bas, Macbeth. C'est celui de Banco, alors ? Macbeth. Il est mieux sur toi que dans ses veines. Est-il expédié ? L'assassin. Monseigneur, il a la gorge coupée. J'ai fait cela pour lui. Macbeth. Tu es le meilleur des coupes-gorges. Il est bien bon pourtant celui qui en a fait autant pour Fléance. Si c'est toi, tu n'as pas ton pareil. L'assassin. Très royal, seigneur. Fléance s'est échappé. Macbeth. Voilà mon accès qui revient. Sans cela, j'aurais été à merveille, entier comme un marbre, solide comme un roc, dégagé, libre comme l'air ambiant. Mais à présent, me voilà claquemuré, encagé, confiné, enchaîné, dans des inquiétudes et des craintes insolentes. Mais Banco est-il en sûreté ? L'assassin. Oui, mon bon seigneur, en sûreté dans un fossé qu'il occupe, avec 20 balafres dans la tête, dont la moindre serait la mort d'une créature. Macbeth. Merci pour cela. Voilà le vieux serpent écrasé. Le reptile qui s'est sauvé est de nature à donner du venin un jour, mais il n'a pas de dents encore. Va-t'en. Demain, une fois rendu à nous-mêmes, nous t'écouterons. L'assassin sort. Lady Macbeth. Mon royal maître. Vous n'encouragez pas vos convives, c'est leur faire payer la fête que de ne pas leur rappeler souvent, tandis qu'elle est en train, qu'elle est donnée de tout cœur. Pour ne faire que manger, mieux vaut rester chez soi. Hors de là, la courtoisie est la meilleure sauce des mets. Sans elle, la réunion serait fade. Macbeth, douce sermonneuse, Allons, qu'une bonne digestion seconde l'appétit, et que la santé suive. Lennox. Plaît-il à votre Altesse de s'asseoir ? Le spectre de Banquo entre et s'assoit à la place de Macbeth. Macbeth. La gloire de notre pays aurait eu ici son fait, si la gracieuse personne de notre Banquo eût été présente. Puissais-je avoir à l'accuser d'une incivilité plutôt qu'à le plaindre d'un malheur ? Ross. Son absence, sire, jette le blâme sur sa promesse. Plaît-il à votre Altesse de nous honorer de sa royale compagnie ? Macbeth. La table est au complet. Lennox. Voici une place réservée pour vous, sire. Macbeth. Où ? Lennox. Ici, mon bon seigneur. Qu'est-ce donc qui émeut votre Altesse ? Macbeth. Qui de vous a fait cela ? Les seigneurs. Quoi, mon bon seigneur ? Macbeth. Tu ne peux pas dire que je l'ai fait. Ne secoue pas contre moi tes boucles sanglantes. Ross. Messieurs, levez-vous, son Altesse n'est pas bien. Lady Macbeth. Non, dignes amis, asseyez-vous. Monseigneur est souvent ainsi, et cela depuis sa jeunesse. De grâce, restez assis. C'est un accès momentané. Rien que le temps d'y songer, il sera remis. Si vous faites trop attention à lui, vous l'offenserez et vous augmenterez son mal. Mangez et ne le regardez pas. Êtes-vous un homme ? Macbeth. Oui, et un homme hardi a osé regarder en face ce qui épouvanterait le démon. Lady Macbeth. La bonne niaiserie. C'est encore une image créée par votre frayeur, comme ce poignard aérien qui, disiez-vous, vous guidait vers Duncan. Oh, ces effarements et ces tressaillements, singeries de la terreur, conviendraient bien à un conte de bonne femme débité au coin d'un feu d'hiver sous l'autorité d'une grand-mère. C'est la honte même. Pourquoi faites-vous toutes ces mines-là ? Après tout, vous ne regardez qu'un tabouret. Macbeth. Je t'en prie, vois, examine, regarde. Là. Eh bien, que dis-tu ? Bah, qu'est-ce que cela me fait ? Puisque tu peux secouer la tête, parle. Ah, si les cimetières et les tombeaux doivent nous renvoyer, ainsi ceux que nous enterrons pour monuments, nous leur donnerons la panse des mille ans. Le spectre disparaît. Lady Macbeth. Quoi, la folie n'a rien laissé de l'homme ? Macbeth. Aussi vrai que je suis ici, je l'ai vu. Lady Macbeth. Fille, quelle honte ! Macbeth. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le sang a été versé. Dans les temps anciens, avant que la loi humaine eût purifié la société adoucie, oui, et depuis lors il a été commis des meurtres, trop terribles pour l'oreille. Il fut un temps où, quand la cervelle avait jailli, l'homme mourait et tout était fini. Mais aujourd'hui on ressuscite, avec 20 blessures mortelles dans le crâne, et on nous chasse de nos sièges. Voilà qui est plus étrange que le meurtre lui-même. Lady Macbeth. Mon digne seigneur, vos nobles amis ont besoin de vous. Macbeth. J'oubliais. Ne vous étonnez pas, mes très dignes amis. J'ai une étrange infirmité qui n'est rien pour ceux qui me connaissent. Allons, amitié et santé à tous. Maintenant je vais m'asseoir. Donnez-moi du vin. Remplissez jusqu'au bord. Le spectre entre. Je bois à la joie de toute la table et à notre cher ami Banquo qui nous manque. Que n'est-il ici ? À lui et à tous notre soif. Buvons tous à tous. Les seigneurs, nous vous rendons hommage en vous faisant raison. Macbeth. Arrière ! Ôte-toi de ma vue ! Que la terre te cache ! Tes os sont sans moelle, ton sang est glacé, tu n'as pas de regard dans ces yeux qui éblouissent. Lady Macbeth. Ne voyez là, noble père, qu'un fait habituel. Ce n'est pas autre chose, seulement cela gâte le plaisir du moment. Macbeth. Tout ce qu'ose un homme, je l'ose. Approche sous la figure de l'ours velu de Russie, du rhinocéros armé ou du tigre d'Hyrcanie. Prends toute autre forme que celle-ci, et mes nerfs impassibles ne trembleront pas. Ou bien redeviens vivant et provoque-moi au désert avec ton épée. Si alors je m'enferme en tremblant, déclare-moi le marmot d'une fille, hors d'ici, ombre terrible. Le spectre disparaît. Moqueuse illusion, hors d'ici. Oui, c'est cela, dès qu'il s'en va, je redeviens homme. De grâce, restez assis. Lady Macbeth, vous avez fait fuir la gaieté et rompu notre bonne réunion par ce désordre surprenant. Macbeth, de telles choses peuvent-elles arriver et fondre sur nous comme un nuage d'été sans nous causer un étonnement particulier? Vous me faites méconnaître mon propre caractère quand je songe que devant de pareils spectacles vous pouvez conserver le rubis naturel de vos joues alors que les miennes sont blanches de frayeur. Ross, quel spectacle, monseigneur? Lady Macbeth, je vous en prie, ne lui parlez pas, il va de pire en pire. Toute question l'exaspère. Bonsoir en même temps à tous. N'attendez pas votre tour de partir, mais partez tous à la fois. Lennox, bonsoir, et puisse une meilleure santé être accordée à sa majesté. Lady Macbeth, affectueux bonsoir à tous. Sortent les seigneurs et les gens de la suite. Macbeth, il y aura du sang versé, on dit que le sang veut du sang. On a vu les pierres remuer et les arbres parler. Des augures, des révélations intelligibles ont, par la voix des pies, des corbeaux et des corneilles, dénoncé l'homme de sang le mieux caché. Où en est la nuit? Lady Macbeth, à l'heure encore indécise de sa lutte avec le matin. Macbeth, que dis-tu de Macduff qui refuse de se rendre en personne à notre solennelle invitation? Lady Macbeth, lui avez-vous envoyé quelqu'un, sire? Macbeth, non, j'en suis prévenu indirectement, mais j'enverrai. Il n'y a pas un d'eux chez qui je ne tienne un homme à mes gages. J'irai demain de bonne heure trouver les sœurs fatidiques. Il faut qu'elles parlent encore, car je suis maintenant décidé à savoir le pire, fût-ce par les pires moyens. Devant mes intérêts, tout doit céder. J'ai marché si loin dans le sang que si je ne traverse pas le gué, j'aurai autant de peine à retourner qu'à avancer. J'ai dans la tête d'étranges choses qui réclament ma main et veulent être exécutées avant d'être méditées. Lady Macbeth, vous avez besoin du cordial de toute créature, le sommeil. Macbeth, viens, nous allons dormir. Mon étrange oubli de moi-même est une timidité novice qui veut être aguerrie par l'épreuve. Nous sommes encore jeunes dans l'action. Ils sortent. Scène 14. Sur la bruyère, on entend le tonnerre. Hécate entre. Les trois sorcières vont à sa rencontre. Première sorcière. Eh bien, qu'avez-vous, Hécate? Vous paraissez irritée. Hécate. N'ai-je pas raison de l'être, Mégère, quand vous êtes si insolente et si effrontée? Comment avez-vous osé commercer et trafiquer avec Macbeth d'oracles et d'affaires de mort, sans que moi, la maîtresse de vos enchantements, l'agent mystérieux de tout maléfice, j'ai été appelé à intervenir ou à montrer la gloire de notre art? Et, qui pisait, vous avez fait tout cela pour un fils entêté, rancuneux, colère, qui, comme les autres, vous aime pour lui-même, non pour vous. Mais réparez votre faute maintenant, partez, et venez au trou de l'Achéron me rejoindre demain matin. Il doit s'y rendre pour connaître sa destinée. Préparez vos vases, vos sortilèges, vos enchantements, tout enfin. Moi, je vais dans l'air. J'emploierai cette nuit à une œuvre terrible et fatale. Une grande affaire doit être achevée avant midi. À la pointe de la lune pend une goutte de vapeur profonde. Je l'attraperai avant qu'elle tombe à terre. Cette goutte, distillée par des procédés magiques, fera surgir des apparitions fantastiques qui, par la force de leurs illusions, l'entraîneront à sa ruine. Il insultera le destin, narguera la mort, et mettra ses espérances au-dessus de la sagesse, de la religion et de la crainte. Et, vous le savez toutes, la sécurité est la plus grande ennemie des mortels. On entend un chant derrière le théâtre. Venez, venez. Hécat. Écoutez, on m'appelle, vous voyez, mon petit esprit m'attend, assis dans un nuage de brume. Elle sort. Première sorcière. Allons, hâtons-nous, elle sera bientôt de retour. Les sorcières sortent. Scène 15. Forès, une salle dans le palais. Lennox et un autre seigneur entrent. Lennox. Mes dernières paroles ont frappé votre pensée qui peut maintenant conclure. Je répète seulement que les choses ont été étrangement arrangées. Macbeth s'est apitoyé sur le gracieux Duncan. Par Dieu, il était mort. Quant au vaillant Banquo, il s'est promené trop tard. Vous pouvez dire, si cela vous plaît, que c'est Fléance qui l'a tué, car Fléance s'est sauvée. On ne doit pas se promener trop tard. Comment se refuser à voir tout ce qu'il y a eu de monstrueux de la part de Malcolm et de Donald Ben à tuer leur auguste père? Exécrable action! Combien elle a affligé Macbeth? N'a-t-il pas immédiatement, dans une rage pieuse, mis en pièces les deux coupables qui étaient esclaves de l'ivresse et captifs du sommeil? N'est-ce pas là une noble action? Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur vif d'entendre ces hommes nier le fait. Bref, je dis qu'il a bien arrangé les choses, et je pense que s'il tenait sous clé les fils de Duncan, ce qui n'arrivera pas s'il plaît à Dieu, il verrait ce que c'est que de tuer un père, et Fléance aussi. Mais silence, car pour avoir parlé trop haut et manqué de paraître à la fête du tyran, j'apprends que Macduff est en disgrâce. Pouvez-vous me dire, monsieur, où il s'est réfugié? Le seigneur. Le fils de Duncan, dont ce tyran usurpe les droits héréditaires, vit à la cour d'Angleterre, où il est reçu par le très pieux Édouard avec tant de grâce que la malveillance de la fortune ne lui fait rien perdre des honneurs qui lui sont dus. Macduff aussi s'est rendu là. Il va prier le saint roi de lancer à son aide Northumberland et le belliqueux Siward, afin que, grâce à leur secours et à la sanction du Très-Haut, nous puissions de nouveau mettre le couvert sur notre table, dormir toutes nos nuits, délivrer nos fêtes et nos banquets des couteaux sanglants, rendre un légitime hommage et recevoir de purs honneurs. Toute satisfaction auquel nous ne pouvons qu'aspirer aujourd'hui. Cette nouvelle a tellement exaspéré le roi qu'il fait des préparatifs de guerre. Lennox. Avait-il fait mander Macduff? Le seigneur. Oui. Et Macduff ayant répondu résolument « Non, monsieur !» Le messager lui a tourné le dos d'un air nébuleux, en grondant comme s'il voulait dire « Vous déplorerez le moment où vous m'embarrasserez de cette réponse. » Lennox. Voilà qui doit bien engager Macduff à être prudent et à garder la distance que la sagesse lui indique. Puisse, avant son arrivée, quelque saint ange voler à la cour d'Angleterre et y révéler son message, en sorte que la paix bénie soit rendue au plus vite à notre patrie accablée sous une main maudite. Le seigneur. Mes prières l'accompagneront. Ils sortent.